de retour au podcast Hypercroissance pour les épisodes du jeudi en mode discussion d'affaires avec mon bon ami Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Salut Antoine, ça va super bien. Et toi?
Ça va bien, merci de le demander. Beaucoup de sujets sur la table aujourd'hui. Une actualité qui est assez fascinante au niveau affaires. Il y a eu des nouvelles un peu inquiétantes pour des organisations de très longue date au Québec. Il y a eu des changements dans le volet de la crypto-monnaie. Il y a eu des organisations qui ont pensé aller engager des milliers de personnes semaine après semaine qui malheureusement ont dû prendre des décisions difficiles. Beaucoup d'actualités dans le monde des affaires là, dans les dernières semaines.
Ça bouge beaucoup et on a des géants qui ont des genoux par terre. Présentement, pratiquement les deux genoux par terre qu'on penserait jamais que ces gens-là étaient dans une position difficile ou une position fragile. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Une des grosses nouvelles au Québec cette semaine, le groupe Sélection. Moi, j'ai appris ça ce matin, puis je pense que la nouvelle, elle est sortie même en début de semaine hier. Mon Dieu, c'est hallucinant, là. Un groupe qui vaut des milliards de dollars en quelques années, une croissance fulgurante, un des beaux fleurons québécois. Moi, personnellement, je suis affecté émotivement par ça parce que ça a été longtemps une des compagnies que je regardais aller, puis je me disais, mon Dieu, si un jour on pouvait être aussi impressionnant qu'eux autres. Et là, ce matin, hier soir même, on apprend qu'ils se sont placés sous la protection de la loi de la faillite. C'est complètement hallucinant parce que, là, c'est mon opinion personnelle, mais on regarde ça, c'est un domaine dans lequel il manque pas de ventes, il manque pas de clients, là. C'est probablement pas un problème de question de revenus, là. C'est probablement plus une question de gestion en arrière. Il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté. Est-ce que c'est vraiment juste une fluctuation comme on voit présentement qui les ont fait complètement fléchir? Mais j'ai vraiment hâte de voir les détails de tout ça parce que, un, c'est malheureusement un beau fleuron qui vient de... Je ne sais pas si ça va s'écrouler complètement. Ça va être quoi la suite? Est-ce qu'ils vont simplement restructurer la dette et ils vont continuer? Mais j'espère que ça ne sera pas vendu à des gens de d'autres pays puis qu'on va perdre ça ici de nos belles mains québécoises, malheureusement.
Ben, c'est des choses qui, malheureusement, peuvent arriver. On l'a vu, je crois, il y a quelques années de ça maintenant, quand Rona avait été acheté pour plusieurs milliards de dollars, a été revendu il y a quelques temps de ça pour beaucoup moins, hein, beaucoup moins. On dirait des fois que quand des organisations québécoises de grande envergure sont achetées par des groupes étrangers, ça se passe pas toujours de la bonne façon. Donc, on espère que tout va rester dans la province. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les taux d'intérêt qui, on est dans un monde différent. On est dans un monde différent en ce moment qu'on l'était il y a un an de ça. On parle, bien entendu, du groupe Sélection. Parlons un peu plus loin. Meta, la semaine passée, qui malheureusement a dû mettre à pied 13% de son effectif. Moi, personnellement, au niveau de mon travail, ça nous a grandement impacté, Jonathan, parce que je te l'ai dit tout de suite. Nous, on a des équipes chez Meta avec qui on travaille, avec notre organisation J7 Media, qu'on est une organisation qui se spécialise en publicité sur les plateformes de Meta. Du jour au lendemain, je suis passé d'à peu près 5-6 personnes que j'étais très, très proche chez Meta à, oh, il me reste peut-être une personne que j'ai un contact dans l'organisation. Donc, beaucoup de gens au support, clients, se sont fait mettre à la porte. C'est 11 000 personnes au total, 13 % de leurs effectifs qui ont été renvoyés. Tu vois, ce matin, le 15 novembre 2022, c'est sorti, c'est pas officialisé encore, mais c'est sorti, à mon avis, ça va être officialisé dans les prochains jours. C'est Amazon qui vont renvoyer 10 000 personnes, bref, qui vont... ça risque d'être un de leurs plus gros renvois, une de leurs plus grosses périodes de renvoi dans leur industrie, dans leur 25 ans en affaires Amazon. Donc, c'est pour dire qu'on est dans un monde différent en ce moment. Et je pense que ça crée une dynamique au niveau de l'emploi qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années de ça. Soyons honnêtes, depuis peut-être les 2-3 premières semaines de la COVID-19, où est-ce que les gens restaient très attachés à leur emploi parce qu'on avait peur de perdre. Bien entendu, on ne savait pas trop ce qui se déroulait dans l'environnement, l'environnement du travail. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une dynamique qui va se changer à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan?
Ben, j'ai la perception qu'il va y avoir un équilibre qui s'en vient peut-être en avant de nous autres parce qu'on se le cachera pas, là. L'employé avait le gros bout du bâton depuis le début de la COVID sur un peu tout toutes les conditions et les variables qu'ils pouvaient demander. Et ça devient difficile parfois en tant que chef d'entreprise de naviguer à travers tout ça parce qu'on essaie tous d'aller dans la même direction, mais si c'est pas équilibré, ben à un moment donné, c'est faut que ça soit donnant-donnant au bout de la ligne. Mais ça fait quelques semaines, puis on avait la discussion Antoine Ordon,
oui, c'est pas la première fois qu'on en parle,
effectivement, que ça fait quelques semaines que je perçois ce que j'appelle des signaux faibles dans le marché. C'est juste des petits glimpses que j'appelle. Puis si on reprend toutes ces petits signaux-là ensemble, ça finit par faire une histoire qui nous donne peut-être une tendance. Et le premier signal faible, qui est quand même fort, je vous dirais, là, c'est un article que Dominique Gagnon à Montréal de Connect & Go a lancé pour le journal Les Affaires, que le titre, c'est « La grande réconciliation ». Et il mentionnait qu'il voit, lui, de son côté, à Montréal et dans son entreprise, une augmentation de la quantité de CV qui rentrent. Et il avait la perception que il y avait beaucoup de joueurs qui quittaient le bateau d'entreprise qui était un peu moins solide ou qui était plus en mode on brûle de l'argent pour aller chercher de la croissance, mais le marché a changé, on dirait un petit peu aujourd'hui. Donc ces gens-là quittent le navire pour aller vers d'autres entreprises qui sont un petit peu plus solides au niveau financier. Et là, moi, j'ai lu cet article-là il y a quelques semaines, j'ai dit, mon Dieu, OK, qu'est-ce qu'il y a de si différent à Montréal que dans nos entreprises? Et je me suis mis à analyser nos chiffres chez nous, chez OpenMind, et c'est vraiment hallucinant, là. Si on regarde avant les vacances de la construction cet été, pendant à peu près 3 mois, on avait la même cadence de CV qui rentrait, un 10 à 20 CV par semaine environ. Et depuis le retour des vacances de la construction, c'est passé au mois d'août à 20 CV par semaine, à 25, à 30. Ensuite, au mois de septembre, 40, 45, 50, 55 par semaine. Mois d'octobre, la tendance continue, 60, 70, 80. Et si je regarde du 7 au 14 novembre, on est rendu à 105 CV.
Oh, wow!
Dans la dernière semaine. Donc, on a 5 à 10 fois plus de CV présentement qui rentrent chez nous, chez OpenMind.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant et c'est une tangente qu'on voit là, qui est très, très, très linéaire à l'heure actuelle quand on se met à sortir la donnée. Et je sais pas, ceux qui nous écoutent, c'est la même chose. Je sais pas si Antoine, de ton côté, tu vois un petit peu plus de mouvement du côté marketing, mais en technologie, de notre côté, ça semble être un peu plus actif. Là.
Ben, ça fait du sens parce que on parle, c'est surtout les organisations à titre technologique là, qui ont eu des enjeux récemment, qui ont fait les nouvelles, Twitter, Meta, bientôt Amazon. Donc ça, c'est à grande échelle. On peut également assumer qu'à petite échelle, des organisations technologiques ont dû revoir un petit peu la manière de gérer leurs effectifs. Donc, des gens perdent leur emploi, automatiquement, ces gens-là se retrouvent en recherche d'emploi et ça peut augmenter la cadence pour d'autres entreprises. Donc, je pense que, et peut-être pour revenir à ta question, j'ai pas fait l'exercice de notre côté à savoir s'il y a eu une augmentation du nombre de CV qui rentrent chaque semaine. Je vais le faire et je vais en parler au prochain épisode pour voir comment ça se déroule au niveau marketing. Mais ce qui est certain, Jonathan, c'est que je crois que là, ici, on peut apprendre. On peut apprendre parce que je sais pas si ça s'est déroulé de votre côté. Mais nous, au début de la COVID, comme à mon avis, la majeure partie des organisations, il y a eu, bien entendu, des gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a eu une opportunité, soyons honnêtes, il y a eu une opportunité pour les employeurs d'aller chercher du talent incroyable qui, malheureusement, ce talent-là n'avait plus le même emploi qu'auparavant à cause des réalités, les réalités de l'époque. Et on est tous restés, en tout cas, je parle pour moi et les gens que je côtoie, on se côtoyait plus ou moins à l'époque, je pense que c'est un des premiers moments qu'on s'était rencontrés. Beaucoup d'entrepreneurs, on est restés figés parce qu'on savait pas vraiment ce qui allait se dérouler, soyons honnêtes. On savait pas nécessairement ce qui allait se dérouler. Par la suite, on a vu, on est revenu à une normalité. Là, loin de moi l'idée de dire qu'on sait ce qui va se dérouler demain, mais je pense qu'on s'en va sur un ralentissement économique, ça c'est clair, mais ça reste que si on est bien armé et qu'on a un bon produit, qu'on est dans un marché en croissance, on va passer au travers là, de ce ralentissement économique-là. On n'aura sûrement pas la même croissance qu'on pourrait avoir quand notre catégorie d'industrie a le vent dans le dos, mais tout de même, on va passer au travers et il y a des opportunités de croissance. Et moi, je pense que c'est un apprentissage qu'on peut faire parce qu'à l'époque, il y a 2 ans de ça là, à peu près, j'étais resté figé. Mais là, clairement, moi, je me suis dit que si cette opportunité-là se représente, et en toute honnêteté, on est tellement, nous, en ce moment, dans le Q4, le Black Friday, le temps des fêtes, qu'on est très dans l'opérationnel et non dans la planification, on pourrait dire ça ici pour la période 2023, qu'on va sortir la tête de l'eau. Ben moi, si cette opportunité-là se présente, qu'il y a un ralentissement économique et que l'industrie dans laquelle j'opère offre des opportunités de talent qui sont disponibles, qu'on n'a pas vues depuis un bon bout de temps, ben là, c'est sûr que moi, je vais passer en deuxième vitesse, parce que je pense qu'avec un peu de recul, c'est peut-être un des plus gros regrets que j'ai eu pendant la COVID, c'est que nous, on a été une industrie qui a été, soyons honnêtes, épargnée et même aidée par la COVID. Et je pense qu'à un certain point, faut travailler comme un bon opportuniste là et comprendre ces réalités-là, parce qu'elles ne se représentent pas toujours. Et il y avait beaucoup de gens sur le marché qu'on aurait peut-être pu aller chercher, mais qu'on a comme figé. Donc moi, je le sais, si tout ça se représente, c'est sûr et certain que je passe à l'attaque.
Restons quand même prudents, parce que chaque crise, je pense, est toujours différente.
Bien sûr.
Mais Winston Churchill disait ne gaspiller jamais une bonne crise.
Exact.
Je pense qu'effectivement, il y a des bonnes opportunités. Mais je serais curieux quand même, là, c'est un peu en mode challenge que je te relance ça, Antoine.
Bien sûr.
Mais pendant la COVID, je pense qu'il y a eu effectivement une belle accroissement au niveau du domaine marketing. Mais est-ce que ça va être la même chose dans la récession qui s'en vient en avant?
Mm-hmm.
C'est à voir. Par contre, je pense, pour vous connaître quand même de manière assez proche, vous êtes bien positionné pour aller capturer des parts de marché dans une récession ou pas. Là, vous êtes bien équipé. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir du talent un petit peu plus sur le marché, ou du moins que ça va se rééquilibrer peut-être un peu plus là, entre employés et employeurs. Là.
Mais ce qui est certain, Jonathan, puis soyons honnêtes, là, c'est vrai que quand on est dans un contexte un petit peu plus de contraction, la première ligne qui saute souvent, c'est la ligne du marketing. Là, ça, on va l'apprendre à personne. Ceci étant, on est dans un domaine, nous, qu'on est quand même, et là, je touche du bois, hein, mais on est quand même sensiblement sécurisé. Je m'explique, on est dans ce qu'on appelle en anglais le direct response marketing. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y avait Elon Musk qui en parlait la semaine dernière dans un entretien qu'il avait donné, la première conférence qu'il a donnée depuis le rachat de Twitter. Et il disait que Twitter était très en danger parce que, bon, bien entendu, tout leur revenu, ou quasiment tout leur revenu viennent du volet publicitaire, mais 70% de leur revenu, Jonathan, chez Twitter, proviennent de ce qu'on appelle le brand, c'est-à-dire des investissements que tu vas mettre en tant qu'organisation en branding que tu ne peux pas, qui ont un impact sur ton organisation, mais malheureusement, tu ne peux pas savoir à quel point que ça a un impact. Tu ne peux pas nécessairement dire un coup par achat, un retour sur investissement direct. C'est des investissements que tu espères vont générer un impact sur ton organisation, mais tu ne peux pas nécessairement les tracer. Et quand tu ne peux pas les tracer et que tu te dois en tant que responsable là, des finances, faire des coupures, mais c'est facile de couper à des endroits que tu ne peux pas savoir ce qu'ils te rapportent. Okay? Donc ça, c'est le contexte que je veux donner ici. De notre côté, on est dans le domaine, il y a deux domaines, le domaine branding et le domaine DR, donc le direct response marketing, que lui, écoute, chaque dollar investi, tu es capable de tracer le dollar que tu vas mettre dans tes poches à la fin de la journée. Donc lui, on est capable de suivre ce qu'on fait. Et si on fait pas une bonne job, tout le monde le sait. Et crise économique ou pas crise économique, on va perdre le mandat. Si on fait une bonne job puis qu'on est capable de maintenir une bonne relation avec le client, bien là, on risque, bien entendu, de maintenir cette entente-là. Hein? Est-ce que le consommateur va moins vouloir passer à l'achat? Est-ce qu'il va avoir des enjeux comme ça? C'est clair. Mais quand tu peux tracer un petit peu plus ce que tu fais, c'est plus facile de passer à travers une crise, du moins je le pense, parce qu'on l'a vu un petit peu quand on était en COVID. Le branding, il a rapidement sauté, mais le direct response marketing, lui, il a continué à être présent parce que, bien entendu, les gens étaient capables de voir les retours sur investissement. Donc ça serait ma réponse à ça. Mais tout de même, c'est vrai qu'il faut pas non plus être stupide. On veut aller, bien entendu, engager les gens qui sont sur le marché, s'ils le sont et qui peuvent nous aider. Mais on veut pas non plus commencer à aller engager tellement de gens que là, on roule à EBITDA négatif et qu'on se retrouve dans un environnement qu'on doit s'endetter, etc. Je pense qu'il faut être intelligent dans tout ça, mais ça peut valoir la peine d'être un petit peu plus agressif.
Et effectivement, puis je pense dans toute situation de rebalancement entre employés et employeurs, quand on arrive proche d'un point de croisade, comme ce qui est probablement en train de se faire là, je pense qu'on a le devoir en tant qu'entreprise de se poser la question, est-ce que notre modèle d'affaires est résilient à la prochaine crise ou à la prochaine, c'est toujours des courbes qui montent, qui descendent. Là.
Oui.
Donc, je pense que tout le monde qui écoute présentement, incluant moi-même, incluant peut-être toi également, Antoine, nous dit, bon, est-ce qu'on est bien équipé pour ce qui s'en vient en avant?
Ben oui.
Parce que probablement les 10, 12, 18 prochains mois ne rassembleront en rien à qu'est-ce qu'on a vu en arrière de nous. Et il faut être bien positionné pour aller chercher le maximum de tout ça au bout de la ligne. Non?
Je pense qu'on doit s'adapter, on doit regarder ce qui se déroule, mais on ne doit pas trop, on va dire, on va utiliser le terme trop, avoir peur. Parce que c'est souvent la peur qui crée une accélération, souvent dans une économie qui est plus difficile. Parce que là, tout le monde ne parle que de ça, donc tout le monde garde ses dollars dans ses poches et personne ne pose des actions. Et si personne ne pose des actions, ben on le sait, l'économie, c'est un effet domino. Hein? C'est-à-dire, une personne dépense moins, l'autre personne dépense moins, l'autre personne dépense moins, puis là, maintenant, on se retrouve dans une conjoncture plus complexe. Bien entendu, il y a des nuances à ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui pourraient expliquer plus précisément comment tout ça se met en place, mais essentiellement, c'est souvent ce qui va se dérouler. Et je pense que la peur, ça nous amène à rien. La peur, ça nous amène à rien. On doit être pragmatique. On doit entourer ce qu'on a de besoin, mais on doit rester opportuniste et regarder ce qu'il y a devant nous parce qu'il y a eu tellement d'opportunités pendant la COVID. C'était incroyable. À qui voulait les saisir? Et je suis convaincu qu'il va y avoir tellement d'opportunités en 2023 et en 2024. À qui veut les saisir? Peut-être que ce n'est pas des opportunités que vous êtes bien équipé à prendre aujourd'hui parce que votre modèle n'est peut-être pas adapté, parce que vous êtes peut-être dans une industrie qui va être plus affectée que d'autres, certes. Mais je crois qu'on vient tellement d'avoir des beaux exemples d'entreprises qui se sont réinventées pendant la COVID que maintenant, on doit prendre ce bagage d'expérience-là et être prêt et faire face à cette peut-être petite crise qui nous attend. Là.
Effectivement. Puis si dans l'auditoire, il y en a qui veulent se réinventer, nous, chez OpenMind, ça va bientôt faire 12 mois là, qu'on travaille très fort au niveau stratégique pour voir comment qu'on peut amener plus de valeur à nos clients. Il y a trois ouvrages qui m'ont quand même beaucoup influencé dans les 12 derniers mois que je vous invite peut-être à vous inspirer ou à lire. Le premier ouvrage, c'est Blue Ocean Strategy, qui est vraiment une technique pour voir où est-ce qu'elle est la valeur que vous apportez vraiment à vos clients et comment réussir à prendre cette valeur là, définir une offre qui est différente au marché pour aller vraiment créer et extraire plus de valeur. Donc, première, c'est le Blue Ocean Strategy. Également, un livre qui s'appelle Play Bigger, qui va encore un petit peu plus loin que le Blue Ocean Strategy, qui permet d'avoir une bonne réflexion là, de qu'est-ce qu'on peut sortir comme nouveau service ou produit à valeur ajoutée. Et un dernier livre de Alex Hormozi, le 100 Million Offers, qui est assez impressionnante si vous êtes en train de repenser votre offre de service ou votre offre de produit, comment l'amener au marché ou comment la présenter à des clients. Un livre assez inspirant là, qui permet de maximiser tout ça puis justement, dans une bonne crise, d'aller quand même chercher de la valeur et l'extraire et de créer un effet de levier au bout de la ligne.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanal à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/hypercroissance. HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Dans une bonne crise, on ne veut pas trop pousser la note ici, là, mais je pense que c'est important, et je le répète, d'être un bon opportuniste. Il y a beaucoup d'organisations qui voudront pas passer à travers la crise. Les dirigeants ne voudront simplement pas. Ils en ont assez, ils en ont peut-être assez eu de la COVID, ils veulent pas passer par un autre moment plus difficile, ils ont peut-être la tête ailleurs. Il y a des opportunités d'acquisition qui vont vraiment se pointer le bout du nez. Nous, dans le domaine dans lequel on opère, qui était excessivement affecté, qui continue de l'être, ce qu'on appelle le direct to consumer, C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération comme pas possible pendant la COVID des achats en ligne. On est revenu à un retour à la normale. Et d'ailleurs, hein, la raison de tous ces renvois-là là, dans les entreprises technologiques aux States, Amazon, Meta, Twitter. Bon, Twitter, il y a eu un changement d'administration, mais disons qu'on prend Meta, Amazon et même les hiring freeze qu'on a été capable de voir chez Google et tout ça, est relié continuellement à une mauvaise analyse que les différents directeurs financiers de ces organisations-là ont fait. Eux pensaient que l'accélération qu'on a connue pendant la COVID allait continuer d'être la même pendant 2023. C'est d'ailleurs dit publiquement dans des lettres qu'ils ont envoyées à tous leurs employés que tout le monde était capable de lire. Mon point est, ça c'est une industrie qui est plus affectée à la baisse, que des gens ont voulu intégrer pendant la COVID parce qu'elle était à la hausse. Mais là, en ce moment, il y a des très, très beaux activités sous-évalué avec ces entreprises-là, avec des gens qui sont prêts à les acheter. Nous, on a fait l'achat d'une organisation. On a fait l'achat de deux organisations dans la dernière année, des petites organisations. Mais tout de même, ça a été des acquisitions et une d'entre elles qu'on a faites, c'est une boutique en ligne, des actifs sous-évalués. Le propriétaire voulait s'en départir. On l'a acheté. Puis tu vois, aujourd'hui, je pense que j'en avais parlé récemment, Jonathan, c'est une entreprise qui, à mon avis, va peut-être faire, elle peut prendre 70 et 100 000 $ de revenus au mois de novembre, là. Et ça, c'est une organisation qu'on a achetée pour pas tellement cher. Il y a aussi ça à penser, hein. Il y a aussi ça à penser. Tout est dans le domaine technologique. La technologie, bon, il y a des organisations qui ont été affectées. Il y a peut-être des actifs sous-évalués chez tes compétiteurs. Peut-être des compétiteurs qui sont pas prêts à passer à la prochaine étape. On veut rentrer aux States. Est-ce qu'il y a peut-être pas un partenariat, une alliance qui peut se faire aux États-Unis? Je pense que c'est un autre point aussi à analyser. Parce que quand les choses sont plus difficile, c'est pas tout le monde qui veut passer au travers de cette crise. On l'a vu pendant la COVID. Combien d'entreprises ont fermé? Combien d'entreprises ont pas voulu réouvrir? Et là, il y avait des actifs sous-évalués devant toi que tu peux te poser la question s'ils peuvent t'aider à croître un peu plus vite. Et ça, je pense que c'est quand même une autre réflexion intéressante à avoir en tant que chef d'entreprise.
Effectivement, puis on a lancé beaucoup de perches avant la COVID pour tenter de croître par acquisition. De mon côté, je suis dans un domaine où ce que l'âge moyen d'un actionnaire ou propriétaire d'une entreprise technologique est quand même assez bas. C'est rare que les gens sont proches de la retraite. Tout le monde est en mode achat. Et je vous dirais, là, depuis un 6-9 mois, le marché est en train de bouger. On voit qu'il y a des joueurs qui se disaient beaucoup en mode acquisition, ont vendu. D'autres qui répondent un peu plus à l'appel. Par contre, la grande problématique du marché présentement, c'est que l'inflation salariale au niveau des gens en technologie est tellement élevée que ça érode beaucoup les marges de profit. Donc, quand les gens arrivent, ils disent je suis prêt à vendre, ouais, mais parfait, on évalue ça comment?
Ouais.
S'il n'y a plus de marge, tu sais. Donc là, c'est la problématique. Et souvent, les gens sont extrêmement attachés émotionnellement à leur organisation.
C'est normal.
Il reste pas évident de leur dire, écoute, ça vaut pas grand chose.
Ouais.
C'est leur fonds de retraite éventuel. Donc, c'est une dynamique qui est spéciale à l'heure actuelle. L'équilibre, elle est pas parfaite présentement.
Ah non. Puis, ça sera jamais parfait. Mais je pense que c'est important de comprendre ça. Et bien entendu, je parle avec peu d'expérience ici parce que je le répète, c'est des petites acquisitions qu'on a faites de notre côté. C'est pas des énormes entreprises, mais tout de même, ce qu'on a été capable d'accomplir de notre côté dans la dernière année au niveau de ces deux acquisitions-là, je ne crois pas qu'il aurait pu être accompli si on prend, disons, l'année 2019 ou même le début 2020 qui est en très, très forte croissance. Tu sais, les choses allaient quand même bien. Les gens avaient le vent dans le dos globalement. Donc, bon, c'est un point à... Tu sais, il y a des enjeux à une croissance constante. Hein? Et quand il y a une croissance constante dans le marché, toutes catégories confondues, il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent se créer. Beaucoup, beaucoup d'enjeux qui peuvent se créer. Il y a également des enjeux qui peuvent se créer dans un marché en décroissance. Là, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y en a pas. Sauf que il y a des opportunités aussi. Et c'est là le point de ne pas être habité par une peur. Faut être habité par un bon stress, de pas faire n'importe quoi avec son capital. Mais faut pas être habité par un stress, selon moi, qui nous empêche de poser des actions qui sont un petit peu plus ambitieuses, peut-être même des fois un petit peu plus risquées, tant sur le temps que le risque est calculé. Je crois que ces risques-là qui seront pris peuvent avoir un retour excessivement élevé sur quelques années. Mais bon, hein, chacun son industrie, chacun sa catégorie, à nous d'analyser les bonnes opportunités.
Effectivement, puis on parle de main-d'œuvre, on parle d'équilibre. On est tombé dans les dernières journées sur un article quand même assez intéressant pour faire bifurquer un petit peu le sujet sur une expérimentation qui a été faite dans une chaîne de restauration aux États-Unis, particulièrement en Floride, dans une franchise franchise. Et là, je vais peut-être mal dire le nom, là, mais c'est Chick-fil-A, la franchise. C'est pas la franchise, mais le brand. Et un franchisseur a voulu essayer de régler un petit peu sa problématique de main-d'œuvre. Il avait de la difficulté, comme beaucoup de restaurateurs à travers le monde, d'attirer et de fidéliser leur clientèle. Pas la clientèle, mais le staff. Et il mentionnait qu'il avait beaucoup de difficultés quand il y avait un autre restaurant qui apparaissait en ville, qui payait un petit peu plus cher que lui. Il perdait continuellement son staff et c'était difficile. Donc, il a décidé de tester un nouveau modèle. On a entendu un fameux modèle dans les derniers mois, dernière année, de faire la semaine de 4 jours. Eh bien, lui, il a sorti la semaine de 3 jours. Donc, c'est de faire des journées qui sont environ de 13 à 14 heures par jour et de réussir à faire pratiquement une semaine de travail temps plein sur 3 jours. Et l'expérimentation était quand même très intéressante au bout de la ligne. Ça l'a fait un grand coup de marketing et il mentionne qu'il a reçu plus de 400 applications dans les premières journées là, de cette annonce-là et qu'il a réussi à combler tous ses postes. Et jusqu'à date, le niveau de rétention est beaucoup plus élevé qu'avant parce que entre autres, dans les restaurations, dans un restaurant un petit peu comme le sien, mais les gens vont faire des fois des quarts de travail le matin, des quarts de travail en soirée. Il va y avoir un trou entre les deux. C'est simplement de combler ce trou-là pour continuer à travailler. Et ça semble avoir donné quand même des bons résultats. J'ai jamais vu ça à date au Québec ici. Ben s'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont essayé ou qui seraient prêts à l'essayer et que vous avez du data là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu d'informations sur LinkedIn. Je pense que c'est une belle expérimentation à faire. Ce qu'il mentionnait, qui est, je pense, un bon apprentissage, c'est que de transférer les gens sur des shifts, des quarts de travail d'un 13 à 14 heures, fait ressortir soit le meilleur des gens ou le pire des gens. Donc, il mentionnait que c'est simplement une accélération ou une amplification de ce que les gens sont. Donc, ça lui permet de savoir qui est vraiment bon ou qui n'est peut-être pas fait pour la restauration. Et comme il mentionnait, il a dû retirer certaines personnes là, de ce programme-là parce que c'est pas pour tout le monde.
C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde non plus la semaine de 4 jours. C'est pas fait pour tout le monde non plus la semaine de 5 jours. Et c'est pas fait pour tout le monde non plus la semaine à la Elon Musk à 7 jours semaine, 18 heures par jour. Hein? Je pense que. Puis tu vois, ça peut amener une réflexion excessivement intéressante ici parce que on dirait, Jonathan, qu'il y a un faux débat qui s'est inscrit. J'en ai parlé même récemment sur LinkedIn. Et on dirait que, bon, depuis plusieurs années maintenant, je pense que la fameuse culture du work hard à tout prix, elle est de moins en moins d'actualité. Je pense que de plus en plus, on est capable d'avoir un pas de recul et de comprendre qu'on peut travailler de manière intelligente et productive en tant que chef d'entreprise pendant un bon 35-40 heures semaine et accomplir plusieurs objectifs. Et ça, je crois que c'est vrai, mais je crois que c'est propre à chacun. Et d'un autre côté, on dirait que c'est devenu quasiment un sujet qui est polarisant parce que, et j'en parlais, on a eu un de nos invités sur Hypercroissance, sur le podcast Hypercroissance, Étienne Lacroix, le CEO de Vention. Un bourreau de travail. Je veux dire, le gars travaille de 8h à 18h à tous les jours, puis après, il recommence en soirée de 8h à minuit. On n'est pas en train de dire que c'est ce que tout le monde doit faire, là. Et on n'est pas en train de dire non plus que c'est ce qu'on a de besoin pour avoir du succès. Mais bref, j'en ai tout de même parlé sur LinkedIn en disant que j'avais une admiration pour ça et en disant que, comme Elon Musk a dit, hein, c'est pas en travaillant 40 heures semaine qu'on va changer le monde. Et mon point était le suivant, je pense que Étienne est bien là-dedans et je trouve ça exceptionnel. Et moi, je suis quelqu'un également qui aime ça travailler beaucoup. Je travaille beaucoup la fin de semaine, tout ça. J'invite pas nécessairement les gens à le faire, mais je pense qu'on peut simplement se dire qu'on peut encourager les gens qui aiment travailler fort et qui aiment travailler le dimanche et qui aiment travailler le soir et qui aiment travailler le jour à continuer à le faire si ça les rend heureux, si ça leur crée de l'énergie et si ça améliore leur entreprise. Et d'un autre côté, on peut encourager les gens à travailler 35-40 heures s'ils sont heureux et que ça améliore leur entreprise. Je pense pas qu'il faut des fois nécessairement entourer les extrêmes et essayer de dénigrer l'un ou l'autre. Et je sais pas, j'ai vu ça et là, j'ai vu des gens commencer à se craquer en disant « Mais voyons donc, travailler autant, n'a pas de besoin. » Écoutez, il est en train de créer une entreprise qui va bientôt valoir $1 milliard. Il crée des choses extraordinaires, Étienne. Encourageons les gens dans ce qu'ils sont bien. Et je pense pas qu'il faut commencer à poser des regards négatifs et créer un environnement polarisant autour de ça. Je pense que chaque individu est prêt à travailler ce qui lui convient le mieux, que ça soit 3 jours, que ça soit 4 jours, que ça soit 5 jours, que ça soit 7 jours. Et je pense que nous, on a le mandat de se poser les bonnes questions dans quoi qu'on est bien, et aussi simple que ça. Et il faut pas commencer à porter, je pense, continuellement des commentaires négatifs sur ça, parce que j'ai vu, on dirait que ça s'est comme accumulé récemment, je voyais ça là-dessus. Et ça m'a surpris.
Ben, c'est un bon point. Puis je pense qu'il y a deux mots qui me viennent en tête dans ce sujet-là. Puis c'est un sujet que j'ai beaucoup jasé avec des amis cet été, justement, pendant les vacances, entre autres. Puis c'est vraiment, je pense, le mot cohérence puis harmonie. Tu sais, je pense qu'il faut être cohérent envers nous-mêmes puis envers ce qu'on demande aux gens dans notre organisation, mais il faut être en harmonie aussi avec ça. Tu sais, de travailler un 60 heures, si on est en harmonie avec ce qu'on recherche puis avec ce qu'on veut puis qu'on est heureux de faire ça, ben tant mieux. Si pour nous, la vie est meilleure puis on a une meilleure harmonie si on fait 20 heures par semaine, ben tant mieux aussi. Mais il y a eu tellement d'idées de gens stigmatisés à travers ces idéologies-là ou ces concepts-là.
Là, on dirait que c'est l'inverse. C'est comme si on ne doit plus le faire. Tu comprends? C'est ça que je trouve spécial, c'est que avant on poussait les gens à ne faire que ça, ou du moins il y avait comme une culture autour de ça. Et là maintenant on dirait qu'on pousse les gens à ne jamais faire ça. Comme attention là, chaque personne est bien dans ce qui lui convient le mieux.
Puis je serais curieux de voir s'il y a une corrélation directe entre le taux de chômage et l'idéologie de dire ben on est dans un cycle où ce qu'il faut travailler très 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 fort, ou dans un cycle où non ben là c'est notre vie personnelle, les vacances qui est plus important, il n'y a pas juste travailler. Je serais prêt à gager là, un bon montant qu'il y a probablement une corrélation entre ces deux choses-là, parce que quand il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles, c'est beaucoup plus facile de dire, je vais travailler moins fort, j'arrive au meilleur résultat, je suis pas obligé, mais quand tu n'as plus d'argent pour mettre de la nourriture sur ta table, il y en a pas mal qui vont se mettre à travailler fort.
On redouble d'efforts. Mais tu sais quoi, Jonathan, ça sera la discussion pour un prochain podcast, parce que je pense qu'on a déjà discuté de plusieurs points aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
Dernier point rapide, pour ceux qui n'ont pas lu là-dessus dans les derniers jours, un énorme tremblement de terre qu'il y a eu dans le domaine de la crypto, le FTX, qui s'est placé là sous Chapter 11, donc la loi de bankruptcy aux États-Unis. C'est complètement hallucinant. C'est un des géants. Là, on pensait pas que ça serait arrivé aussi rapidement. Il y a 13 mois, le président de cette entreprise-là, fondateur, faisait la couverture du Forbes magazine. Comme
Jonathan, ça, je pense que ça mérite un podcast en entier.
Ah oui, je pense
ça
que on n'en dit pas plus.
Je veux qu'on aille une discussion crypto pour le prochain podcast. Je ne suis pas un expert en crypto, mais je commence à être très intéressé sur le sujet. Vous me direz que je suis tard dans le dossier. Peut-être, mais tout de même, je pense que mon petit cerveau vient de commencer à comprendre ce qui est en train de se dérouler dans l'industrie de la crypto-monnaie, et j'aimerais qu'on en parle. Et peut-être même qu'on invitera un expert sur le sujet. Ça pourrait être intéressant peut-être de créer des panels, mais je veux qu'on prenne plus de temps là-dessus. Là, ça fait déjà une trentaine de minutes. Donc,
excellent, garde
tes idées, Jonathan. On en parle sur un prochain podcast.
Super.
Allez, on se dit à bientôt. Bye-bye.